Les colloques du Collège de France.
Alors, à mon tour de remercier le professeur Coulon de nous avoir invités ici, de m'avoir permis de parler sur un projet que je mène actuellement, qui est le projet sur le Mamizie romain de Dendera, qui ne viendra que peu dans ce sujet, mais vous verrez, on y arrivera quand même. Alors, dans des études précédentes, j'ai essayé de démontrer qu'à l'époque ptolémaïque, un couple de scènes apparaît fréquemment dans les temples, faisant partie du vocabulaire pour exprimer le pouvoir lagide et sa légitimité pharaonique. Je l'ai appelé le schéma décoratif du culte royal, qui consiste d'une part d'une scène montrant une divinité, Thoth ou Sechat, écrivant limite paire pour le couple régnant, couplé ou parallèle à une scène montrant le roi régnant exécutant le culte des ancêtres. La deuxième scène montre que la légitimité du couple régnant est liée à son passé, donc aux ancêtres. Dans mes études, j'ai aussi suggéré que ce schéma étant établi probablement sous le règne de Ptolémée III, perdure avec quelques changements mineurs jusqu'à Ptolémée XII, qui va changer de manière plus radicale le vocabulaire royal. C'est une de ces adaptations en cours de route qui va nous intéresser aujourd'hui, plus particulièrement le règne de Ptolémée VIII. Parmi les schémas que ce roi a déployés sur ses parois de ses temples, celui des parois extérieures du Naos d'Edfou est particulièrement intéressant. La scène de la rédaction de limite paire a été scindée en deux parois qui permettent de les distribuer sur la paroi est et ouest du Naos et qui a permis d'insérer dans le schéma les deux reines du roi, Cléopâtre II et III. Les scènes des ancêtres sont alors placées au-dessus de ces scènes, le roi restant ainsi, comme le veut la tradition, lié à son passé. Mais les scènes de la rédaction introduisent un élément nouveau qui est le fils héritier. Successeur de son père, il relie le roi avec son futur et à long terme, il garantit que le roi régnant un jour deviendra lui-même l'ancêtre et changera donc de côté ou de scène, pourrait-on dire, en recevant à son tour le culte des ancêtres. Une scène semblable apparaît dans le Mamizie d'Edfou. Et c'est cette scène qui va être notre point de départ pour notre question centrale, c'est-à-dire comment est-ce que la décoration des Mamizis exprime l'idéologie royale lagide et comment est-ce que roi-enfant et dieu-enfant sont mis en relation dans ce contexte. C'est donc l'enfant royal faisant partie de la cour qui va être au centre de nos intérêts. La scène montre le dieu Thoth inscrivant limite paire au nom du roi en présence du roi et des deux reines. Entre le roi et la première Cléopâtre apparaît le fils royal. Cette scène et celle du Naos ont évidemment attiré l'attention des égyptologues qui ont essayé d'une part de déterminer l'identité de ce fils royal. Alors on a parfois reproché aux Égyptiens de ne pas avoir nommé explicitement ce fils. Mais ceci est évidemment un reproche d'historien moderne et la nécessité de la discussion moderne montre en fait, à mon avis, que justement pour les Égyptiens, cet aspect-là n'avait aucune importance. De même, la question de la mère de cet enfant, est-ce que c'est le fils de Cléopâtre II ou de Cléopâtre III ? En fait, pour les Égyptiens, l'enfant avait un père et deux mères. Et si ceci se reflète sur la paroi parallèle où figure le pendant divin de l'histoire, le père Amon, accompagné d'une déesse, entrant auprès d'une deuxième déesse allaitante et recevant de la part du roi régnant le culte, tout comme les deux mères. Du point de vue du cycle royal, Ce fils royal est en fait Ptolémée VIII lui-même, mais dans une forme rajeunie. Tout comme ce fils est évidemment le roi régnant futur, qui produira lui-même un nouveau fils, qui sera identique à lui, et donc indirectement sera identique à Ptolémée VIII, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, égal à Ménès et égal à Horus. Nommer le fils n'aurait donc que fatalement réduit l'impact de la scène qui a une vision beaucoup plus large que la vision restreinte que voudraient y donner les historiens modernes. L'identification entre le dieu-fils et le roi est exprimée par d'autres scènes où deux enfants apparaissent, deux enfants, le deuxième étant identifié par les cartouches de Ptolémée VIII. Ptolémée et Arsamptous sont donc identiques, tous deux fils d'Horus et d'Hathor, et le fils royal, fils de Ptolémée, sera donc à son tour aussi identique à Arsamptous, fils d'Horus et d'Hathor, continuant ainsi le cycle de la royauté. Il est difficile de déterminer pourquoi exactement ces trois scènes utilisent ce stratagème de l'identification et des deux enfants et de l'identification entre le fils royal et le fils divin. Mais la scène au-dessus de la scène de l'Imiter est intéressante puisqu'elle présente la déesse Sechat écrivant les annales pour les deux enfants tenus par Nekbet et Wadjit. La signification royale de la scène est évidente, et ici encore, on peut suggérer une identification entre la scène avec la scène en dessous, donc entre les deux scènes, les deux scènes ici. En effet, l'un au-dessus de l'autre, Sechat et Thoth agissent pour la royauté, exprimée par la succession humaine au premier registre et par la succession divine au deuxième registre. Ceci suggère également une identification possible, d'une part entre les acteurs masculins et les acteurs féminines ou les actrices féminines. Qu'en est-il du Mamisi avant Ptolémée VIII? Dans le Mamisi de Nectanébo à Dendera, l'identification entre le roi et l'enfant est suggérée, mais pas aussi explicite que dans le Mamisi de Ptolémée VIII. Le roi apparaît deux fois. Une première fois, il est guidé par Khnoum et Heket vers le dieu Heka, seigneur du palais. Ceci suggère évidemment une connotation royale pour un roi qui vient de naître, idée qui serait suggérée par les deux dieux, Khnoum et Heket. Ceci semble confirmé par la scène du début du registre, montrant les Ka et les Hemesut avec l'enfant sur leurs genoux, ces enfants étant identifiés comme Arsamptous, Iri et Nectanébo. La version de Philée semble avoir suivi en grande ligne la version de Nectanébo. La scène des deux dieux guides est présente, mais les cartouches sont restées vides. Les cartouches au-dessus du roi, ici, sont restées vides. Deux rois ont ajouté postérieurement leur nom, Ptolémée IV et Ptolémée III, créant ainsi la grande discussion sur la datation de ce Mamisi et de son décor. La scène des Ka et des Hemesut, qui aurait dû se trouver au début du registre, est absente. Peut-être qu'elle se trouvait sur une autre paroi, peut-être la paroi sud, qui a été probablement réaménagée plus tardivement. Il est intéressant de voir que dans ce Mamisi, Ptolémée VIII a ajouté une salle qui est intéressante aussi pour notre propos. Le thème de la royauté d'Horus se développe principalement sur la paroi arrière de la salle, avec une représentation de la déesse allaitante au premier registre et le faucon au deuxième registre, chacun représenté dans le marais. Pour le reste, il est étonnant de voir que l'enfant divin est assez absent sur ses parois, ou au moins peu important. Hippocrate n'apparaît que deux fois, et toujours en troisième position. Khonsu et Arsomptus n'apparaissent là aussi que pour compléter la triade respective de Thèbes et d'Edfou. Et une seule scène est dédiée à Arendotès, si on peut le considérer comme un dieu enfant. Point d'interrogation. Une seule scène montre la déesse allaitante avec un dieu fils qui reste anonyme. Cette même déesse réapparaît au premier registre. Ces scènes présentent une anomalie qui va nous intéresser. En effet, la colonne latérale divine des scènes, de manière classique, débute par le signe du soleil à deux aurilles. On lit traditionnellement Nesubiti, roi de Haute et de Basse-Égypte. Que ce soit pour une divinité masculine ou pour une divinité féminine. Chaque fois, nous avons le soleil au début de cette colonne. Cette colonne fait le pendant avec le signe du faucon, Ankh Netcher Nefer, qui débute la colonne latérale du roi. C'est également le cas dans les deux premières scènes du premier registre. En effet, on retrouve le soleil au début, d'une part pour Hathor, accompagné d'Hippocrate, et le soleil pour Osiris, Isis, Arendotès, donc féminin, masculin. Chaque fois, ceci est mis en parallèle avec le faucon de la colonne latérale du roi. Dans les deux cas, c'est le couple royal qui entre en action devant ces divinités. À la fin du premier registre, apparaissent deux scènes avec la déesse et l'enfant. Cet enfant est à chaque fois resté anonyme, il ne porte aucun nom. Du côté ouest, que vous voyez ici, la déesse Hathor se pose en protectrice de l'enfant, tandis que Isis l'allait. Les deux déesses sont bien identifiées par leurs noms dans leur colonne de texte. Toutefois, dans la colonne latérale, n'apparaît non pas le soleil, mais le faucon féminin avec les deux plumes sur la tête, qui fait maintenant le pendant au faucon masculin de la colonne royale. Malgré les destructions, on peut suggérer une composition semblable pour la paroi est, où l'on voit encore la déesse avec sa main et l'enfant allaité. On peut donc s'imaginer, mais c'est donc hypothétique, la colonne latérale débutant par le faucon, et ici une déesse fâche qu'on pourrait ici faire précéder par une déesse allaitante, qui est nommée ici avec le faucon féminin. Il est vrai que le faucon féminin peut servir à désigner Hathor et Isis, mais il est évidemment aussi le pendant féminin du roi faucon au masculin. Et donc, le faucon féminin pourrait renvoyer à la reine. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que plus bas dans la colonne latérale, réapparaît le soleil avec les deux uries, suivi du nom de déesse Hathor et Isis. Comme si la colonne latérale n'était en fait pas, ou ne désignait en fait pas une personne, mais deux personnes différentes, d'une part la reine et d'autre part la déesse mère, qui sont évidemment identifiées l'une à l'autre. Ainsi, le premier registre suggérerait une identification du roi au dieu-fils, combiné avec une identification de la reine à la déesse mère, le tout aboutissant sur la paroi arrière avec la déesse allaitante dans le marais. Ainsi, à Edfou, une grande importance serait donnée à l'identification entre le roi et le dieu fils, car on est dans le temple masculin, disons, d'Horus, tandis qu'à Philée, ceci serait combiné avec l'identification de la reine à la déesse mère, puisqu'il s'agit du temple d'Isis. Alors jusqu'à présent, j'ai parlé de l'identification du roi au dieu fils. Mais la question peut se poser, doit-on pas parler de l'identification du dieu fils au roi ? En fait, en identifiant les différents rituels dans lesquels apparaît cette identification entre les deux personnages, doit-on conclure qu'il s'agit d'un rituel royal ou d'un rituel divin ? Ou, si on part de l'idée que les deux sont en fait identiques, on peut l'exprimer autrement, est-ce que c'est un rituel exécuté pour le roi ou pour le dieu ? Nous retournons pour cela au Mamiside d'Endera, ou le Mamiside de Nectanebo, dans le kiosque construit par Ptolémée VIII. On y trouve face à face le couronnement du roi et l'offrande des couronnes au dieu fils. Les deux thèmes sont clairement liés et la mise en parallèle suggère là aussi une identification entre le roi et le dieu fils. En regardant le contexte de ces scènes, on constate qu'elles font partie d'un rituel plus large qu'on appelle le rituel de la montée royale. Rituel introductif à un rituel plus complexe. Alors ce rituel de la montée royale est un rituel exécuté par et pour le roi. Ce rituel n'est jamais exécuté pour le dieu et commence toujours par la fameuse scène du roi sortant du palais. La reine apparaissant dans la scène de l'offrande des couronnes pourrait suggérer, bien que dans ce cas-ci les textes ne le soutiennent pas vraiment, mais on pourrait suggérer un jeu semblable à celui de Philée, avec une identification d'une part entre le roi et le dieu-fils, et entre la déesse-mère et la reine. Alors ce rituel de la montée royale apparaît également sur les parois extérieures sud et nord du Mamiside d'Edfou. Sur la paroi sud, le roi sort du palais avec la couronne blanche, sur la paroi nord avec la couronne rouge. Dans chaque série, on retrouve les scènes bien connues de ce rituel, la sortie du palais, la purification du roi, le couronnement du roi, l'introduction du roi auprès des dieux et l'adoration des dieux par le roi. Dans la série nord, le roi apparaît normalement dans chaque scène identifié par ses cartouches. Par contre, dans la série sud, on remarque que seule la première et la cinquième scène présentent les cartouches. Les scènes du milieu, donc 2, 3 et 4, n'ont pas de cartouches. De plus, dans la série nord, le roi se dirige de manière habituelle, dans ce cas-ci, de gauche à droite. Dans la série sud, on s'attend au roi se dirigeant vers la gauche, donc de droite à gauche. On peut toutefois remarquer que seule de nouveau la première et la cinquième scène se dirigent vers la gauche, tandis que dans les scènes 2, 3 et 4, le personnage est inversé. Finalement, si dans les scènes 2 et 3, les figures sont identiques, malgré leur renversement, celui de la scène 4 est différente. Vous aurez aussi remarqué que la scène est différente. L'image de la scène 4 indique clairement qu'il s'agit en fait d'Arsomptus, le dieu-fils. Et les textes confirment que dans les deux autres scènes, il s'agit en effet d'Arsomptus et non pas du roi. Le rituel de la montée royale est donc un rituel normalement exécuté par et pour le roi, le roi étant ici remplacé par le dieu enfant. On aurait donc tendance à dire que le dieu s'identifie au roi plutôt que l'inverse. Donc c'est le dieu qui en fait accapare un rituel royal. Alors n'oublions pas que les scènes de la naissance divine elle-même sont en fait à l'origine des scènes de naissance royale qui ont été accaparées par le dieu fils. Alors il faut bien faire la différence ici, évidemment, entre deux points de vue, c'est-à-dire la manière que les théologiens ont utilisé les expressions qui étaient à leur disposition, c'est-à-dire qu'ils ont pris un rituel royal et l'ont calqué sur le personnage divin, mais ça, à part de l'effet, donc du message à apporter, qui est évidemment l'inverse, c'est-à-dire, c'est pas le roi qui l'a fait le premier, c'est évidemment le Dieu qui l'a fait le premier, et c'est le roi qui a calqué du Dieu et qui se légitime ainsi en répétant ce que les dieux ont fait. Posons-nous encore une dernière question. Est-ce que ces conceptions ont toujours été les mêmes ? Est-ce que de l'époque de Nectanébo, ou peut-être Saït, si on veut retourner un peu plus en arrière, est-ce que l'époque de Nectanébo a déterminé le schéma du Mamizi ? Et est-ce que celui-ci a été copié pendant 500 ans, jusqu'à Trajan pour donc le Mamizi romain à Dendera, est-ce que ceci a été répété donc pendant 500 ans de manière servile? Regardons pour cela un dernier groupe de scènes, la rédaction des annales. Dans ces scènes, on a traditionnellement un dieu de l'écriture, Thoth ou Sechat, écrivant quelque chose sur un roseau pour une autre personne. Sur la paroi arrière du sanctuaire du Mamizi de Nectanébo, à Dendera, on voit Thoth et Sechat agissant tous les deux pour le dieu enfant. Les textes sont clairs, les deux dieux parlent à la deuxième personne du masculin, à la divinité fils. La mère elle-même agit, tout comme tous les autres dieux, pour l'enfant. Dans le Mamizi d'Edfou, comme nous avons vu, Sechat et Thoth agissent, respectivement Sechat pour le monde divin, ou au niveau du monde divin, et Thoth agissant pour le roi, donc dans le monde humain. Ceci nous pousse à donc identifier le monde humain et le monde divin, le roi et le dieu enfant. Donc cela pour le règne de Ptolémée VIII. Dans la salle des offrandes du Mamizi de Nectanébo, datant, donc un ajout datant de l'époque de Ptolémée XII, Thoth agit maintenant pour l'enfant, tandis que Sechat agit pour la déesse-mère. Cette déesse-mère devient maintenant la régente de son fils, qui a pris sur elle la royauté avant de la passer à son fils. Et comme on peut le lire, c'est elle qui prend en main le Mekès et l'imite père et le donnera alors, par conséquence, plus tard à son fils. Cette idée semblable apparaît sur les parois, sur la paroi arrière du sanctuaire du Mamizi romain que j'ai présenté dernièrement à Leipzig, où toute l'attention est portée vers la déesse régente. La royauté du fils passe donc par un stade où c'est la déesse qui détient le pouvoir. Ceci est exprimé par les paroles de Ré, qui offre en fait son pouvoir à son fils. On peut en effet lire ici « Je te donne au féminin ma maison, mon trône, mes possessions étant établies sur mon trône ». Donc ça veut dire que en fait, Ré passe d'abord son pouvoir à la déesse Hathor, qui le passera ensuite à son fils Ihi ou Arsomptus. Ce qu'on doit surtout remarquer, c'est justement dans ce cadre-là l'importance des scènes d'investiture de la déesse Hathor qu'on retrouve ici et qu'on retrouve à multiples autres endroits à Dendera. Donc ce sont des scènes bien connues qui en fait établissent Hathor comme successeur de Ré. Ce qu'il faut en plus remarquer, c'est l'absence totale du roi sur cette paroi. D'ailleurs, cette idée est continuée sur les parois latérales, où l'on voit le dieu Thoth et Ré, s'avançant vers la déesse Hathor, les paroles aussi bien d'Hathor que de Thoth invitent le roi ou Réoracti à venir vers la déesse pour voir son fils. Ré, Agnol, retient cette idée et donc dit qu'il vient pour placer son fils sur le trône. Mais en même temps, on peut voir que les paroles de Ré et de Thoth passent aussi le pouvoir à la reine. Donc le dieu Thoth inscrit pour toi au féminin les annales et je te donne ici de nouveau cette même phrase de Ré, je te donne la maison, ma maison, mon trône, etc. Donc à la déesse. Et ceci est donc répété une troisième fois ici avec Ré ordonnant des jubilés pour la déesse. Alors la question qui se pose et auquel pour le moment je n'ai pas encore de réponse définitive, c'est de savoir s'il s'agit ici d'un développement thématique spécifique à Dendera ou c'est un développement chronologique, c'est-à-dire un changement de conception du pouvoir dans cette expression de la relation entre le roi et le dieu-fils, le roi étant donc, dans le cas du dernier Mamizi, totalement absent. Mais donc une recherche plus approfondie devra démontrer dans quelle direction chercher. On peut toutefois indiquer que dans le vestibule de Philée, qui a été gravé sous Tibère, mais dont la conception de la décoration pourrait bien dater de l'époque ptolémaïque, les deux déesses agissent clairement pour l'enfant. Donc on est ici également à l'époque romaine, mais les deux déesses donc disent clairement, ou ce sont celles qui augmentent, qui écrivent les jubilés, oui, qui augmentent les années pour le fils d'Osiris d'une part, et de l'autre côté pour le fils de Isis. Donc la déesse, elle, dans ce cas-ci, ne partage pas le pouvoir. On peut toutefois, en conclusion, remarquer qu'une scène identique de Ptolémée VIII et de Trajan, justement celle où Séchate écrit les annales pour les deux enfants sous Ptolémée VIII, est transformée à l'époque Trajan avec un enfant, le roi étant donc tout à fait absent. Et donc la question se pose si ça reflète un changement dans la conception de la royauté et de sa relation par rapport au monde divin et à quel point le monde divin est un reflet du monde royal, c'est-à-dire que l'absence royale, l'absence de l'empereur, moins important sur, dans le contexte local de Dendera, ben, aurait mené à changer aussi la conception et l'image du monde divin. Je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site. Collège-2-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.